Le journal présenté par Maxime Fayol.
Bonjour à tous. Les combats font rage aujourd'hui dans le nord de la Syrie. Les avions et les chars turcs avancent en direction du nord. Plusieurs frappes contre le groupe État islamique, mais aussi des affrontements avec les combattants kurdes. Explication avec Mathieu Péris. Après l'officialisation de la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire de la droite en début de semaine, c'est au tour du favori des sondages de faire sa rentrée. Alain Juppé est à Chatou aujourd'hui et il se démarque de son rival, nous le verrons avec Yannick Falt. L'Italie pleure ses morts après le séisme qui a coûté la vie à 290 personnes à Amatrice. Ce samedi, c'est journée de deuil national. Nous serons sur place avec Mathilde Imberti. Et en fin de journal, direction Perpignan, qui devient pour deux semaines la Mecque du photojournalisme. Le festival Visa pour l'image a débuté aujourd'hui. C'est peut-être un tournant dans le conflit syrien et dans ses jeux d'alliances complexes. Aujourd'hui, plusieurs frappes aériennes ont eu lieu dans le nord du pays. Des frappes turques qui visent à la fois l'État islamique et les milices kurdes. Bonsoir Mathieu Péris.
Bonsoir Maxime.
Ces bombardements, c'est la suite d'une opération entamée par les Turcs il y a quelques jours.
Oui, depuis mercredi, les forces turques ont lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate dans le nord de la Syrie. Une offensive de grande ampleur. On parle de dizaines de chars engagés sur le terrain. Alors cette opération vise en fait deux objectifs. D'abord, reprendre avec les rebelles syriens la ville de Jarablus, l'un des derniers bastions de l'État islamique dans la zone. Objectif atteint, la ville est tombée dès le premier jour de l'offensive. Mais l'autre objectif, au moins aussi important pour Ankara, c'est d'empêcher les miliciens kurdes de l'IPG de poursuivre leur progression vers l'ouest et de les contenir de l'autre côté du fleuve Euphrate. Depuis plusieurs mois, les forces kurdes tentent de faire la jonction entre les différentes zones qu'elles contrôlent, notamment avec l'enclave d'Afrin à l'ouest. Les Kurdes syriens contrôlent déjà une bande de 400 km le long de la frontière turque. Et pour Ankara, il est tout simplement impensable que les 90 km restants tombent aussi entre leurs mains.
Alors Mathieu, l'affrontement semble aujourd'hui de plus en plus frontal entre la Turquie et les forces kurdes.
Oui, aujourd'hui, deux chasseurs F-16 turcs, vous l'avez dit, ont bombardé des groupes terroristes, je cite, a fait savoir le gouvernement turc. Ankara qui ne fait pas de distinction entre l'État islamique et les forces kurdes, pourtant soutenues par les États-Unis, eux-mêmes alliés de la Turquie. Par ailleurs, des affrontements aussi ont éclaté entre des chars turcs et des milices kurdes. Ce sont les premiers combats au sol depuis le lancement de l'offensive. Et l'armée turque devrait continuer sa progression vers le sud. Il est donc très probable que les combats d'aujourd'hui se reproduisent dans les prochains jours.
Précision de Mathieu Péris. Et en Turquie, trois anciens diplomates ont été placés en détention provisoire aujourd'hui. Ils sont accusés d'être liés à la tentative de coup d'État dans le pays le mois dernier. Parmi ces diplomates, on retrouve notamment un ex-conseiller de l'ancien président turc Abdullah Gül. Moins d'une semaine après l'entrée en campagne officielle de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé riposte aujourd'hui à Chatou dans les Yvelines. Le maire de Bordeaux est favori des sondages pour la primaire de droite, fait sa rentrée. Et à l'opposé de son rival Nicolas Sarkozy, Alain Juppé cherche à se poser en rassembleur, Yannick Falt.
C'est la réponse du berger à la bergère ou d'Alain Juppé à Nicolas Sarkozy, alors que l'ancien chef de l'État l'accuse de naïveté, Alain Juppé assume.
Ne vous laissez pas abattre par le défaitisme des prophètes de malheur. Soyez les pionniers d'une France qui va, je persiste et je signe, retrouver le chemin d'une identité heureuse, c'est-à-dire d'une harmonie entre sa diversité et son unité.
L'identité heureuse, un objectif, pas un constat, précise l'ancien Premier ministre qui reprend son idée d'accord entre la République et les représentants du culte musulman avec l'adoption d'une charte de la laïcité, l'instauration de règles sur le recrutement des imams et le financement des mosquées pour connaître l'origine des fonds. Alain Juppé se démarque donc de l'ancien président auquel il répond point par point mais sans jamais citer son nom. Ici, par exemple, sur le regroupement familial que Nicolas Sarkozy veut suspendre.
J'ai proposé de conditionner le regroupement familial, non pas de l'interdire, ce qui serait inhumain, mais de le conditionner à l'exercice d'un emploi et donc à l'existence d'un revenu du travail pour celui qui le demande.
Autre point de divergence, la création d'un Guantanamo à la française pour les individus les plus dangereux qui portent atteinte à la sûreté de l'État, c'est ce que veulent certains sarkozistes.
Que faire des fichiers S? Voilà un sujet tout trouvé pour toutes les surenchères. Et je le dis clairement, je n'accepterai pas sur notre sol un Guantanamo à la française où l'on enfermerait sans jugement des milliers de personnes pour une durée indéterminée et sur simple soupçon.
Alain Juppé creuse donc son sillon sans en dévier, celui d'une ligne modérée, sa martingale rassemblée, alors que Nicolas Sarkozy est accusé par ses détracteurs de vouloir diviser.
Yannick Falt, à Chatou. En Italie, ce samedi est un jour de deuil national. 3 jours après le terrible séisme dans le centre du pays, à Amatrice. Séisme qui a tué 290 personnes, un bilan encore provisoire. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de funérailles ont eu lieu à Ascoli, au nord d'Amatrice, avec une émotion très largement palpable, Mathilde Inverti.
Aux côtés des plus hautes autorités italiennes, les proches des victimes assistent à ces funérailles nationales.
Nel nome del padre. Les
cercueils, 35 au total, ont été disposés dans un gymnase de la commune d'Ascoli, transformé de fait en chapelle ardente. Intense douleur pour la jeune Chiara, 14 ans, qui a perdu son meilleur ami dans la catastrophe. Mon meilleur ami était en vacances à Pescara del Tronto avec un groupe d'amis. Cette nuit-là, une grosse pierre lui est tombée sur la tête et ça l'a tué. À Ascoli, on vient rendre hommage aux victimes et se serrer les coudes, car les répliques sont incessantes. Adrien a vu la peur au ventre.
On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si la réplique du moment sera celle qui fera tout s'écrouler. Ma maison n'est pas au normand antisismique et le tremblement de terre a déjà provoqué une grosse fissure dans mon couloir. Je reste sur le qui-vive.
Depuis mercredi, plus de 1300 répliques ont été enregistrées dans ces terres montagneuses du centre de l'Italie.
Le reportage de Mathilde Imberti à Ascoli pour France Culture. Au Gabon, les bureaux de vote sont en train de fermer. Élection présidentielle à un tour ce samedi. Le président sortant, Ali Bongo, brigue un second mandat. Il a succédé à son père, Omar, en 2009. Et au vu des fraudes constatées par Thomas Barthes, l'un des porte-parole de l'association Survie qui observe de près cette élection aujourd'hui, la victoire d'Ali Bongo ne fait aucun doute.
Depuis une dizaine de jours, on entend énormément de témoignages comme quoi différents acteurs achètent les cartes d'électeurs, notamment des chefs de quartier, des maires, des députés, des sénateurs du PDG. PDG, donc le parti au pouvoir actuellement. On peut voir que dans une soixantaine de villes, il y a plus d'inscrits que d'habitants. Donc on voit déjà qu'il y a un problème. Dans certains quartiers de Libreville, notamment le quartier de la Présidence, on voit qu'il y a beaucoup plus d'inscrits que dans les quartiers les plus importants en termes de nombre d'habitants, que dans les quartiers plus populaires qui traditionnellement font plus anti-PDG Bongo au pouvoir. Donc c'est clair que l'élection actuellement est tout sauf transparente et respectueuse de ce qu'on appelle souvent les critères démocratiques.
Il y a pourtant des observateurs.
Oui, comme dans toutes les élections, dans toutes les dictatures. À Djibouti, il me semble qu'il y avait des observateurs étrangers. Au Congo-Brazzaville, il y avait des observateurs. Au Tchad, il y avait des observateurs. Pourtant, on a bien vu que les fraudes ont été quand même massives. Au contraire, d'ailleurs, ça a souvent permis de valider des élections frauduleuses mises en place par des dictateurs pour se faire réélire, sans qu'il n'ait jamais rien eu de condamnation de la part des observateurs, que ce soit l'Union européenne, des observateurs français, quand avant la France envoyait directement des observateurs. On n'a jamais vu de condamnation des différentes fraudes qui sont clairement pourtant avérées.
Thomas Barthes, porte-parole de l'association Survie, il répondait à Valérie Crova et les résultats de cette élection au Gabon seront connus mercredi. Direction maintenant Perpignan qui devient pour 2 semaines la Mecque du photojournalisme. Le festival international Visa pour l'image a ouvert ses portes aujourd'hui. 2 semaines d'expositions, de conférences et de débats autour de la photo et de l'actualité. Pas étonnant donc que la problématique des migrants soit au cœur de cette 28e édition, Alexandra Akoun.
De l'eau jusqu'à la taille, un enfant sur l'épaule gauche, de l'autre côté un bébé en pleurs auquel il se cramponne. L'homme sur la photo est syrien. Il vient d'arriver sur l'île grecque de Lesbos avec ses 2 enfants. Le chaos de l'exode se lit sur son visage. C'est l'un des nombreux clichés à découvrir au fil des 3 expositions consacrées cette année aux migrants. Une thématique qui s'est imposée d'elle-même dans la sélection du festival. Jean-François Leroy, le directeur de Visa pour l'image, a en effet reçu pas moins de 450 propositions de reportages sur le sujet.
Si j'explique ça de façon un peu cynique, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas loin, donc pas très cher à couvrir, mais les photographes se sont mobilisés parce que ils veulent témoigner de ces tragédies au quotidien. Ça m'a paru intéressant de prendre 2 photographes grecs, Yanis Berakis et Paris Messinis, qui sont au cœur du problème. Eux, c'est leur pays. Ils sont là tous les jours pour témoigner de ce qu'ils voient, Lesbos, Ios, etc., où ces migrants débarquent en flux continu et où on les entasse. Alors il y en a qui essayent de passer à pied, mais maintenant on leur ferme les frontières. C'est juste révoltant.
Une révolte que l'on éprouve aussi devant les photos de la Française Marie Dorini, mandatée par le Parlement européen. Elle a photographié les femmes réfugiées demandeuses d'asile en Grèce, en Macédoine et en Allemagne. Son travail en noir et blanc est un témoignage bouleversant.
La météo et 43 départements toujours en alerte orange à la canicule ce soir. Pour demain, le beau temps s'éloigne un peu, ne concerne plus que la partie est du pays. Les températures restent élevées avec 29 degrés à Strasbourg au lever du jour.